Alors, si maintenant on en vient à ces politiques, est-ce que vous les avez déjà plus ou moins observées, analysées? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Est-ce que vous pourriez donner des exemples de la manière dont cette découverte affecte les politiques et dont elle pourrait les transformer radicalement? Puisqu'il s'agit tout de même, même si l'erreur est minuscule, il s'agit d'une transformation radicale tout de même.
C'est pas radical, ça veut pas dire du tout, et il faut faire très attention à ça, que demain matin, on peut abandonner les politiques fortes qu'il faut faire sur le gaz
Ah, c'était
carbonique.
pas
Il
dans ce sens-là
faut
que je
diviser,
parlais de
oui. Non, mais
radical.
il faut le rappeler. Parce que ça sera sûrement interprété un certain nombre de fois comme ça. Ah, on va s'occuper maintenant du méthane et on peut oublier le gaz carbonique. Il n'en
Adios
est
le
pas
CO2.
question. Il faut d'abord et avant tout, continuer à faire des efforts, et beaucoup plus qu'aujourd'hui, pour arriver à diviser les émissions mondiales de CO2 d'un facteur 2 d'ici 2050. Et ça ne sera pas simple. Mais ça ne suffit pas.
Donc la réduction du gaz carbonique, ça passe très spécifiquement par des politiques énergétiques fortes.
Par exemple, c'est essentiellement ça. C'est
Essentiellement.
essentiellement ça.
Essentiellement d'économie d'énergie forte.
Voilà.
C'est le premier facteur.
Mais maintenant, prenons quelques exemples. Je vais en prendre un ou deux, un en France et un dans un pays en développement. En France, aujourd'hui, les ordures ménagères sont une source de méthane. C'est une source de méthane à partir des décharges d'ordures ménagères. On met des ordures en tas. Ces ordures fermentent et dégagent du méthane. Un certain nombre de ces décharges sont couvertes. On met des tuyaux, on récupère le méthane, et soit on utilise le méthane derrière pour se chauffer ou s'éclairer ou faire de l'électricité, soit simplement on brûle le méthane à la sortie. Donc on ne sort pas de méthane dans l'atmosphère. Un certain nombre d'autres ne sont pas couvertes de bâches en plastique, si vous voulez, et pas équipées de tuyaux. Aujourd'hui, ça représente à peu près 0,5 millions de tonnes
De
de
méthane
méthane qui s'échappe dans l'atmosphère. J'ai
chaque
eu
année.
le
Chaque année.
chaque année. J'ai eu la curiosité de regarder ce qui se passait si, en 5 ans, on équipait toutes ces décharges, ce qui sera peut-être fait d'ailleurs par la France, j'en sais
C'est-à-dire que
rien.
vous avez le chiffre exact des décharges qui ne sont pas couvertes
Voilà,
aujourd'hui et donc
il y a 200 grosses décharges qui ne sont pas couvertes, en gros, et qu'il faudrait couvrir. Je ne prends pas les plus petites. Et j'imagine que sur ces 0,5, on arrive à en capter 0,4 d'ici 2015, parce que ce n'est pas très compliqué à faire. Et je compare ça avec des politiques proposées par le Grenelle de l'environnement pour résister à l'effet de serre dans le domaine du CO2. Et je m'aperçois avec beaucoup de surprise qu'une politique de ce genre, consistant à éliminer le méthane des décharges, qu'on va continuer à
Simplement en
alimenter,
couvrant.
hein, en les couvrant, en récupérant le méthane et en brûlant le méthane, c'est du même ordre de grandeur qu'une politique consistant à isoler 400 000 logements par an pendant 15 ou 20 ans. Isoler de façon très sérieuse, avec des normes tout à fait sérieuses du logement ancien. Vous voyez que c'est considérable.
C'est énorme.
C'est des politiques, c'est équivalent, si vous voulez. Pas jusqu'à 2300, mais sur le siècle, jusqu'en 2060, 2080, c'est du même ordre. Or, c'est justement 2060 ou 2080 qui nous intéresse. On pourrait faire le même calcul avec le remplacement de centrales nucléaires, etc. On trouve toujours des chiffres assez importants.
Comment ça, on pourrait faire le même calcul avec les
Bon, on
centrales
pourrait dire
nucléaires?
si je peux comparer cette politique de couvrir les ordures ménagères, des tas d'ordures ménagères, avec une politique je fabrique plus de nucléaire, de centrales
Pour
nucléaires
éviter les émissions
ou
de
de
gaz à effet
centrales
de serre.
solaires
Oui.
qui ne font pas de qui ne feraient pas de CO2 parce qu'autrement on les aurait fait avec du charbon ou du gaz, et je trouve aussi tombe aussi sur des chiffres importants. Bien. Donc ça veut dire que sur le moyen terme, entre 2040 et 2080, ces politiques sont importantes. En plus, on peut les implanter assez rapidement. Isoler 10 millions ou 15 millions de logements en France, vous ne pouvez pas le faire dans les 3 ans qui viennent. Si vous en isolez 400 000 par an, c'est déjà pas mal. Il faut s'en occuper. Bien. Donc ces politiques sur le CO2, qui sont absolument essentielles à faire, qui jouent d'abord sur le logement, ensuite sur l'urbanisme et les transports, sont des politiques qui prennent du temps parce qu'on travaille sur des infrastructures. Donc des politiques comme ça part maintenant, si on s'en occupe, et vers 2040, ça commence à être vraiment très efficace.
Donc assez tard par rapport à la date
C'est
que vous
important, il faut
évoquiez de
absolument que ce soit
2050,
fait,
bien entendu.
mais ça ne commencera à jouer sérieusement à son plein jeu que assez tard, parce que c'est des problèmes d'infrastructure, et changer des infrastructures, c'est long, faire des TGV, c'est long, etc. Les politiques sur le méthane, quand on peut les faire, et c'est le cas des ordures, sont des politiques qui peuvent jouer sur le court terme, qui peuvent être implantées sur le court terme, et donc, comme elles ont des pérennités longues, peuvent avoir une influence importante sur le moyen terme avant la fin du siècle. D'où l'importance. Alors, je prends un autre exemple, à l'autre extrémité, dans les pays du tiers-monde. Un pays émergent comme le Mexique, qui se développe. Et j'ai regardé entre 1990 et maintenant, ou 2005, l'augmentation de ses émissions de gaz carbonique d'une part, et l'augmentation de ses émissions de méthane d'autre part. On sait bien que des pays en développement, se développant vite, vont augmenter leurs émissions de gaz carbonique parce qu'ils ont besoin de plus d'énergie. Et même s'ils sont très vertueux et qu'ils font des efforts considérables pour faire des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie, ils vont augmenter, et tout le monde en est d'accord, leurs émissions de CO2, de gaz carbonique, parce qu'ils vont consommer plus d'énergie. Donc c'est relativement inéluctable. Bien. Et d'ailleurs, les Mexicains ont augmenté d'une centaine de mégatonnes leurs émissions de gaz carbonique pendant la période. Ils ont aussi beaucoup augmenté, et beaucoup plus d'ailleurs, en proportion, leurs émissions de méthane. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que par hasard, ils ont beaucoup plus de ruminants, parce qu'ils sont plus nombreux? Non, pas plus de ruminants, pareil. Bon. Est-ce que c'est leur système énergétique qui fuit, si vous avez fuite de gaz? Non, c'est du même ordre. En fait, ce qui a changé, c'est qu'ils se sont mis à collecter leurs ordures ménagères et à traiter l'eau pour des raisons sanitaires. Et ça, c'est le développement. C'était vraiment pour des raisons de développement humain qu'ils ont commencé à faire ça. Mais sans prendre les précautions derrière, pour récupérer le méthane des tas d'ordures ménagères et pour récupérer le méthane du traitement de l'eau. Et quand on regarde l'influence de ce qui s'est fait entre 90 et 2002, 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus exactement ce que j'ai pu trouver comme statistique, sur le siècle prochain, on s'aperçoit que les émissions supplémentaires de méthane qu'ils ont provoqué pendant cette période-là, va avoir une influence tout à fait importante, et du même ordre de grandeur jusqu'en 2030 que celle du CO2.
130.
Entre 2030, et ce sera encore de 40 ou 50% à la fin du siècle. Mais, en même temps, on peut dire ça de façon optimiste, en disant, on sait très bien que ces pays vont avoir du mal à contrôler la croissance de leurs émissions de CO2 à cause du développement. Par contre, il n'y a rien d'inéluctable à ce qu'ils continuent à augmenter la croissance de leur CH4, de leur méthane, pendant cette période, parce que ça, on sait le déconnecter du développement.
Alors là, à ce stade, je pense qu'il serait bon, peut-être, que vous définissiez l'un et l'autre les différents gisements de méthane qui existe. Parce que, Benjamin Dessus, vous avez évoqué les décharges, vous avez fait allusion aux ruminants, il y a également les rizières, c'est-à-dire que l'agriculture est extrêmement productrice de méthane. Et alors, cette facilité de résolution du problème, est-ce qu'elle est la même sur toutes les sources d'émissions de méthane?
Certainement pas. Ça dépend à la fois des pays, parce que les pays ne sont pas faits pareils. Mais les grandes sources d'émissions de méthane, c'est d'abord le système énergétique. C'est d'abord l'agriculture, et vous avez raison. C'est à la fois les rizières, les plantes qui poussent dans l'eau, et les ruminants. Sur ces deux aspects, on ne peut pas grand-chose. On fait de la recherche pour améliorer les rizières de ce point de vue-là. On fait de la recherche pour améliorer les ruminants pour qu'ils fassent moins de méthane. Bon, un point quand même. Dans les pays européens, on met de plus en plus les vaches en batterie, vous le savez bien. Et d'ailleurs, les écologistes ne sont pas ravis de voir toutes ces vaches et tous ces ruminants qui restent toujours enfermés. Mais s'ils sont toujours enfermés, on ventile les étables. Si on ventile les étables, on pourrait peut-être imaginer de récupérer le méthane. Bon.
Oui, enfin, bon. On peut aussi...
Non, c'est une petite...
C'est une suggestion, mais on peut aussi imaginer qu'il n'y ait plus de batterie et qu'il y ait moins de ruminants.
Oui. D'accord.
Puisqu'il y a aussi...
Mais à ruminants constants et avec les pratiques actuelles, on pourrait au moins faire ça, peut-être. Ça, c'est le plus gros morceau. Ça représente généralement, à la fois dans les pays riches et dans les pays du tiers-monde, de l'ordre de 60% des émissions de méthane.
Ah, donc c'est quand même la source de méthane la plus importante, mais c'est celle sur laquelle les moyens d'action sont relativement les plus faibles.
Mais là-dedans, il y a quand même tous les effluents de l'élevage, les lisiers, les fumiers, etc., qui sont une source d'énergie d'une part et une source de méthane, donc d'énergie et aussi de gaz à effet de serre, à peu près du même ordre de grandeur que les ordures ménagères dont je vais vous parler. Mais avec le développement, dans l'ensemble des pays, les 40% ou 45% qui restent se répartissent en général à peu près moitié-moitié entre les émissions du système énergétique. Les émissions du système énergétique, c'est le grisou qui sort des mines de charbon.
Du méthane.
C'est qui est du méthane. Le grisou, c'est du méthane. Alors, quand il est très concentré, ça explose. Quand il n'est pas concentré, il s'échappe à l'air, personne ne s'en occupe. Mais on sait le récupérer à la sortie d'une mine, surtout quand c'est une mine souterraine, bien entendu. Une mine à ciel ouvert, c'est plus compliqué. Mais il y a moins de méthane. C'est aussi les fuites des distributions de gaz. C'est aussi les fuites des torchères, des puits de pétrole qu'on oublie d'allumer. Un puits de pétrole, il y a du méthane dedans, et si on n'allume pas la torchère qui est en bout, ça représente quelque chose d'important. Par exemple, en Tunisie, c'est une source principale de méthane, parce qu'ils ont beaucoup de puits de pétrole et de puits de gaz. Et puis enfin, il y a tout ce qui concerne les déchets, que ce soit les déchets ménagers, les déchets putrescibles, ou les déchets d'élevage, qui représentent encore de l'ordre de, moi je dirais, en moyenne au monde, 60% pour l'agriculture, 20% pour les déchets, 20% pour le.
Mais alors, Benjamin Dessus, est-ce qu'après avoir fait l'apologie de l'élevage en batterie, vous allez faire l'apologie des incinérateurs?
Pas forcément. Enfin, je veux dire, on peut aussi. Ce qui est important, c'est d'utiliser le méthane. On peut composter à l'air libre les déchets. À ce moment-là, on ne fait pas de méthane, parce que si on fait décomposer de la biomasse à l'air libre, à l'oxygène, ça ne fait pas de méthane. Ça fait du CO2, mais ça ne fait pas de méthane. On peut méthaniser exprès nos déchets de façon provoquée des méthaniseurs, comme le faisait Valorga, enfin il y a un certain nombre d'entreprises qui font ça.
C'est l'option biogaz.
C'est l'option biogaz, et utiliser ce biogaz. On peut aussi le récupérer dans les décharges. On peut aussi l'incinérer si on sait l'incinérer proprement. Je veux dire, l'incinération n'est peut-être pas définitivement foutue le jour où on est sûr qu'il ne sort pas des saloperies épouvantables de l'incinérateur. Donc, voilà. Donc, on a toutes ces solutions, et on a les mêmes solutions pour les lisiers de porc, etc. D'autant qu'en plus, dans le cas des lisiers, c'est tout à fait intéressant. L'une des raisons pour lesquelles il faudrait méthaniser les lisiers, c'est qu'on ne sait plus du coup quoi en faire. Et alors, du coup, on en répand partout, ça sent mauvais d'une part, et d'autre part, il y en a trop. Et il y en a trop, pourquoi? Parce qu'il y a trop d'engrais azotés dedans, il y a trop de nitrates. Et si on met trop de nitrates, ça fait du N2O. Et ce N2O,
là, on arrive
partout,
à l'oxyde nitreux.
De l'oxyde nitreux. Or, si vous méthanisez vos lisiers de façon centralisée, vous récupérez vos nitrates de façon concentrée, vous n'êtes pas forcé d'en mettre partout, et vous ne faites pas du N2O, qui est un gaz à effet de serre. Donc vous voyez, vous avez des effets positifs combinés pour l'agriculture.
Juste un mot,
oui. Bernard Laponche.
Je pense sur l'importance politique de cette affaire. C'est essentiellement dans les négociations entre les pays dits développés, enfin les pays industrialisés, les pays en développement ou émergents. Je reprends ce qu'a dit Benjamin, mais en insistant dessus, c'est que les pays comme la Chine ou l'Inde, ou le Mexique, ou le Brésil, etc., même s'ils font des efforts de maîtrise de l'énergie, les émissions de gaz carbonique vont augmenter. Et donc, on leur reprochera d'être coupables des augmentations. Par contre, la réduction des émissions de méthane actuellement est donc sous-estimée. Elle est comptée trop bas. Et si on la comptait à sa valeur, par exemple à 2050 ou 2100, comme on vient de l'expliquer, elle serait valorisée. Et donc ces pays-là peuvent mettre en avant dans la négociation qu'ils sont prêts, ou qu'on peut aider à ce qui est des gros programmes sur les ordures ménagères, sur le développement du biogaz, ce qui d'ailleurs se fait en Chine, mais ça donnerait une plus grande valeur à ces, pas forcément monétaire, mais même en termes d'effet sur le climat, ça valoriserait ces actions, et des organisations comme le PNUD, le PNUE, enfin, qui s'occupent de développement, pourraient faire des grands programmes mondiaux sur la question des ordures ménagères, ce qui permettrait d'étendre le champ des actions et ne pas limiter toujours à la question énergétique. Et surtout, qui montrerait que des pays comme l'Indonésie, le Mexique, la Chine, l'Inde, etc., pourraient dire « nous participons à l'effort de réduction » par des actions directes de diminution sur le méthane. Donc dans une négociation post-Bali, ce serait très important de changer cette vision et de tenir compte de ces possibilités politiques, y compris du point de vue des grandes organisations.